Bonjour, ravie de vous retrouver pour revivre ensemble les temps forts de la semaine en France, en Afrique et dans le monde.
Une semaine d'actualité, Chantal Leroux.
Nous irons d'Alger à Bamako en passant par Cozzano et Istanbul. Et pour commenter cette actualité, nous avons le plaisir de recevoir Eric Fotorino. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez été directeur du Monde. Vous avez cofondé avec succès en 2014 un hebdomadaire singulier, le 1. Et vous lancez aujourd'hui Zadig, une très belle revue trimestrielle consacrée exclusivement à la France. D'abord, pourquoi avez-vous choisi ce nom, Zadig ? Qu'est-ce qu'il dit de votre revue ?
Ah oui, c'est une question intéressante parce que c'est important toujours de choisir un titre à un journal, à une revue pour qu'il marque les esprits. Et comme vous l'avez dit, je voulais parler exclusivement dans cette revue de la France. Je voulais un nom qui parle, qui donne quelque chose de l'esprit français. Et j'avais le choix, je m'étais donné le choix entre Victor Hugo et Voltaire. Et finalement, Voltaire, je me souviens que De Gaulle en 68 avait dit à propos de Jean-Paul Sartre, on n'emprisonne pas Voltaire. Ben voilà, c'est un journal libre dans lequel passe de l'insolence. Et puis Zadig, c'est un personnage très résilient de la littérature et de la philosophie française, c'est-à-dire qu'il traverse mille épreuves et il s'en sort toujours, il en tire les leçons, il baisse jamais les bras et il cherche et il trouve le bonheur. Voilà.
Alors avec Zadig, vous voulez rendre lisible un pays illisible. C'est un sacré défi.
Oui, je pense que en fait, et je voudrais réussir ça, non pas tout seul, mais avec tous les reporters, tous les écrivains, les dessinateurs, les photographes qui participent à cette aventure, c'est justement multiplier les regards, s'approcher au plus près de ce que sont les réalités de ce pays déchiré, fracturé, sur lesquels effectivement on n'a plus de récits vraiment cohérents et intelligibles qu'on puisse partager. Donc voilà, c'est ça l'ambition.
Vous avez l'impression que les Français, ou une partie des Français en tout cas, sont déconnectés de leur pays, qu'ils le méconnaissent, ou qu'ils ne savent pas en apprécier la richesse, la diversité?
Oui, et en particulier les élites, en particulier ceux qui sont ou des élus, ou des technocrates, ou des gens qui regardent un peu la France de haut, depuis Paris, depuis des situations un petit peu établies. Et là, j'ai voulu, on est dans une époque où on a tendance à confondre la réalité avec ce qu'on voit sur des écrans et ce qu'on regarde très vite. Et là, je pense qu'on avait vraiment, au contraire, au moment où l'information se dématérialise, besoin de l'incarner en allant au plus près des gens.
Et pourquoi est-ce que vous teniez à avoir cette diversité de regards? Vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez avec des journalistes, évidemment,
oui.
Mais aussi vous avez sollicité des écrivains, des historiens, sociologues, dessinateurs,
oui.
Démographes.
Oui, ben, parce que si vous voulez, je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs. C'est-à-dire que mon approche, vous savez qu'aujourd'hui, il y a toujours un regard un peu de méfiance sur notre métier, sur les journalistes. Et donc, je pense que pour retrouver de la confiance, il faut créer justement une sorte de dialogue de tous ces différents regards. Et quand vous avez du savoir immédiat, qui est celui des journalistes qui vont sur le terrain et que vous le croiser avec des savoirs de plus longue main, comme par exemple Mona Ozouf dans ce premier numéro, l'historienne, ou Pierre Rosanvallon, ou encore Hervé Lebras qui fait des cartes sur la France, ben, il me semble qu'on approche justement des récits qui donnent confiance et qui même aussi peuvent permettre d'espérer.
Zadig, c'est 200 pages à peu près d'enquêtes, de reportages, d'interviews en format long. Est-ce que vous vous êtes inspiré de 21, la revue lancée par Patrick de Saint-Exupéry, qui a initié le format long, en France en tout cas?
Oui, ben, je me suis surtout, en tout cas pour Zadig, inspiré de America, qu'on a lancé il y a 2 ans, qui vraiment est... François Bunel. Et effectivement, on a commencé là à introduire sur l'Amérique. La différence, disons, qu'avec 21, bien sûr, que 21 a été le pionnier de cette presse au long cours. Disons qu'avec America, puis maintenant Zadig, on a un petit peu modifié la focale, dans la mesure où c'est en effet des longs reportages, des longs textes, mais en se concentrant sur un sujet. Donc l'Amérique pour America, la France pour
l'Amérique
Zadig.
L'Amérique de Trump vue par des écrivains, il faut rappeler.
Exactement, voilà. Donc on resserre un peu la focale, mais effectivement, je pense que 21 a été très pionnier dans ce type d'approche.
Alors le premier numéro de Zadig a pour thème « Réparer la France », et il tombe à pic en pleine crise des gilets jaunes. Est-ce que vous aviez senti souffler le vent de la contestation avant que la tempête n'éclate début décembre?
Non, je ne peux pas dire qu'on a fait Zadig avec l'idée que tout ça allait se fracturer en France. Mais en revanche, ce qu'on avait senti dès l'élection présidentielle de 2017, c'est qu'il y avait un certain nombre de codes, en particulier politiques, mais aussi dans l'économie, ce qu'on appelait l'ubérisation de l'économie, le côté vertical, c'est-à-dire les autorités autorités constituées, les journalistes, les professeurs, les sachants, on voyait bien que tout ça a été remis en cause, notamment par les réseaux sociaux et les nouvelles formes de vie et de sociabilité, d'appartenance. Et donc, il me semblait très important, il y a 2 ans déjà, de raconter ce pays. Voilà.
Sept jours en Afrique.
Une page s'est tournée cette semaine en Algérie, sous la pression de la rue et sous la contrainte de l'armée. Le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné mardi soir de ses fonctions après avoir passé 20 ans à la tête du pays. Sitôt la nouvelle annoncée, vous l'entendez, des scènes de liesse ont éclaté dans Alger. Le récit de notre envoyé spécial, Léa Lisa Westerhoff.
L'annonce est tombée il y a une heure à peine. Et déjà, des groupes de jeunes se dirigent vers le centre-ville en chantant. Eux sont 4, un immense drapeau algérien flotte au-dessus de leur tête.
La route, elle est encore longue, mais c'est un pas de géant. Pour les Algériens, pour les jeunes Algériens, qui ont constaté que cette petite révolution pacifique a porté ses fruits dans le positif.
Très vite, la foule est au rendez-vous, drapeau algérien, selfie, sourire, les gens s'embrassent, se filment, chantent, la joie est sur tous les visages.
Enfin de la joie. On se sentait humilié, puis là, on reprend confiance, on est heureux aujourd'hui. Même si c'est un premier pas, on est heureux.
Je suis venu en famille pour exprimer la joie. Nous sommes très contents suite à l'annonce du départ de ce despote. C'est la plus grande dictature. Nous l'avons subie durant ces 2 décennies. Et c'est énorme. Je pense que c'est une grande réalisation pour le peuple algérien. Et aujourd'hui, nous sommes très, très optimistes pour ce pays. Ce n'est qu'une étape. Nous voulons une vraie démocratie. Nous voulons la liberté pour ce peuple, un avenir radieux pour ces jeunes-là. Vive l'Algérie!
Les klaxons ont résonné jusque tard dans la nuit. Alger savoure sa victoire. Cette démission, qui il y a 6 semaines encore, semblait être un rêve impossible.
Des manifestants qui entendent continuer à vendredi, magnifique néologisme, c'est-à-dire à marcher dans la rue chaque vendredi pour demander le départ non seulement du clan Bouteflika, mais de tout le système. Un système désormais dans le collimateur de la justice algérienne. 12 chefs d'entreprise proches du pouvoir sont poursuivis pour faits de corruption et transfert illicite de capitaux vers l'étranger, avec interdiction de sortir d'Algérie. David Bachet.
Opération main propre ou règlement de compte. Les 12 chefs d'entreprise poursuivis par la justice algérienne sont réputés proches du pouvoir et comptent parmi les plus grandes fortunes du pays. Parmi eux, Ali Haddad, ancien président du Forum des chefs d'entreprise algériens, est également poursuivi pour infraction au change. Il a été incarcéré après son arrestation le week-end dernier, alors qu'il tentait de franchir la frontière tunisienne en possession de sommes d'argent en dinars, en euros et en dollars. La justice algérienne soupçonne surtout Ali Haddad et les autres patrons poursuivis d'avoir bénéficié de leur proximité avec le clan Bouteflika pour obtenir des marchés publics et d'autres avantages leur ayant permis de bâtir leur colossale fortune. Mais la rapidité et les conditions dans lesquelles ces poursuites ont été lancées incitent certains observateurs à y voir la main du général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, en lutte avec le frère de l'ex-président Saïd pour la conduite de l'ère post-Abdelaziz Bouteflika. Le général Salah avait dénoncé mardi les complots abjects fomentés par une bande qui a fait de la fraude, la malversation et la duplicité sa vocation.
Éric Fotorino, c'est le début du grand ménage dans les hautes sphères corrompues du pouvoir algérien, ou est-ce que c'est le début des règlements de compte?
Oui, c'est la question est bien posée. Vous savez, Romain Gary disait que la réponse est le malheur de la question. C'est qu'effectivement, on se pose ces questions, je crois qu'on ne sait pas encore, parce que on voit, et ce qui était important dans le reportage intéressant tout à l'heure, c'est que les deux personnes qui ont parlé, c'est qu'à la fois ils sont très heureuses, et en même temps ils disent, bon, c'est un premier pas, on va voir, il faut être prudent, la lutte est longue. Et vous savez, ce serait n'est pas la première fois qu'un peuple se bat pour sa liberté. Lorsqu'il l'a obtenue, il ne sait pas quoi en faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que certains vont, des généraux, vont s'arranger pour garder leur position? Est-ce que c'est comme dans le guépard de Lampedusa, que tout change pour que rien ne change? On ne sait pas. Donc, bien sûr qu'il y aura à la tête probablement des clans qui vont être écartés par d'autres. Là, c'est apparemment le clan des chefs d'entreprise. Comme vous savez, dans cette opacité du pouvoir algérien, il y avait à la fois les hommes de Bouteflika, sa famille, ses frères, etc. Il y avait des généraux, pas tous les généraux, mais des généraux. Il y avait des chefs d'entreprise. Il y avait aussi des islamistes qui n'étaient pas dans le pouvoir, mais à qui on avait distribué une partie de la rente, en particulier le commerce de gros, de demi-gros, etc. Je me souviens d'avoir publié dans Le 1, il y a 2 ans, un texte magnifique de Boualem Sansal qui s'appelait « Les 7 plaies de l'Algérie ». Et il décomposait comme ça toutes les, une plaie étant Bouteflika. Et bien sûr, ce qu'il faut retenir, je crois, à ce stade, c'est que ce président qui ne parlait pas a démissionné sans le dire, parce que qui a entendu Bouteflika dire qu'il démissionnait? Donc on voit bien que le pouvoir est ailleurs. Il faut savoir maintenant quel est son vrai visage.
Alors l'actualité africaine de la semaine, c'est aussi la Libye avec les ambitions de l'incontrôlable maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui rêve de contrôler tout le pays. Et puis à la guerre contre les djihadistes au Sahel se greffent désormais les conflits intercommunautaires au Burkina Faso comme au Mali. Une semaine et demie après le drame d'Ogossagou où quelques 160 villageois peuls ont été assassinés, le Mali justement reste sous le choc. L'enquête est toujours en cours. La milice de chasseurs d'Ogon, Dana Ambassagou, est sur la sellette. À l'Assemblée nationale, mercredi, les députés maliens ont interpellé le gouvernement qui a reconnu ses failles. Le reportage à Bamako de Coralie Pierret.
Qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, les députés disent à l'unisson leur indignation après le drame d'Ogossagou. Quelle est la responsabilité des élus, s'interroge l'honorable Idrissa Sankaré de Bankas, la localité touchée par les récentes violences.
Qu'avons-nous fait, monsieur le président, nous députés? Qui parmi nous connaît Bankas Koro? Y a-t-il une mission de terrain? Non. Nous sommes tous responsables, monsieur le président.
Les annonces de la dissolution du groupe d'autodéfense d'Ana Ambassagou et des limogeages au sein de l'armée ne sont pas des mesures suffisantes pour rétablir la sécurité au centre, selon Bakary Doumbia, député de l'opposition.
Nous sommes en face d'une véritable faillite politique. La réalité est que notre sécurité a été sous-traitée à des groupes armés au nord comme au centre du Mali.
Pour répondre, Salif Traoré, ministre de la Sécurité, représente le gouvernement.
Nous avons un peu plus de 15 000 hommes qui sont déployés en permanence. C'est vrai, face à l'absence de l'État, à certains endroits, certains ont cru devoir se substituer à l'État. Mais nous sommes en montée en puissance, nous sommes en réorganisation, nous allons être beaucoup plus visibles. Et nous allons nous assumer.
Selon le ministre, 150 militaires maliens ou étrangers et 440 civils ont été tués depuis 3 mois. Ainsi, la crise au centre a fait près de 1000 victimes depuis janvier 2018.
Et un médecin militaire français a été tué mardi au Mali. Son véhicule blindé a sauté sur une mine artisanale dans une région frontalière du Burkina. Le capitaine Marc Lécuras, 30 ans, est le 24e militaire français décédé au Mali depuis l'intervention Serval en 2013, suivi de l'opération Barkhane, élargie à 5 pays du Sahel en 2014. Éric Fotorino, comment sortir de cette guerre sans fin au Mali et de manière générale au Sahel?
Ouais, c'est là aussi la question est très difficile parce que on voit bien que ce qui demeure, c'est cet État malien qui a quasiment disparu. Donc on pense que on peut voir ces questions qui sont posées avec ces terribles massacres là de Peul. On parle d'intercommunautaire. Est-ce que c'est vraiment ça d'ailleurs? Est-ce que c'est pas une question de sécurité de l'État, tout simplement du territoire? Est-ce qu'il y a des lieux où effectivement l'autorité publique ne peut plus intervenir?
Et le ministre de la Sécurité l'a reconnu à l'Assemblée devant les députés. L'État est absent dans certains endroits.
C'est ça. Et donc, si vous voulez, à partir de là, je crois qu'au-delà de la question communautaire, de la question comment finir cette guerre, c'est comment rétablir un État de droit là où il a été complètement vermoulu et effondré par ces années de combats djihadistes.
Alors le Rwanda se prépare à commémorer demain, dimanche, le 25e anniversaire du génocide. Plus de 800 000 Tutsis tués entre avril et juin 1994 par des Hutus. Est-ce que le président Emmanuel Macron a eu raison, selon vous, de refuser l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, qu'il avait invité à assister à ces cérémonies?
Bah, je pense en tout cas que s'il était allé là-bas, il aurait fallu qu'il ait un discours assez clair sur à la fois les responsabilités de la France, mais aussi sur qu'est-ce que c'est que ce régime aujourd'hui du Rwanda, quelles sont les pratiques de Paul Kagame. Donc je crois que le fait de ne pas y aller lui évite d'avoir deux types de discours qui auraient pu être un peu urticants.
Et alors en même temps, l'Élysée a créé hier une commission d'historiens chargée de faire la lumière sur le rôle de Paris pendant le génocide. Une commission qui suscite déjà la polémique. Selon le journal La Croix, deux historiens ont été écartés de cette commission. Hélène Dumas et Stéphane Audouin-Rouzeau, deux spécialistes du génocide rwandais. Ça fait un peu désordre. La commission déjà critiquée avant même qu'elle ait commencé à travailler.
Bah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on connaît déjà la conclusion qu'on attend de cette commission? Autrement dit, est-ce qu'il faut affranchir la France de toute responsabilité, ou est-ce qu'on veut justement montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça et que c'est très nuancé? Nous avons fait une fois un numéro du 1 sur la question rwandaise avec Pierre Péan, avec Hubert Védrine, avec aussi Colette Brackmann, qui donc n'avaient pas du tout les mêmes avis. Et je peux vous dire que ça reste encore aujourd'hui, pour les journalistes, pour les historiens, pour les acteurs politiques, quelque chose qui est de l'ordre passionnel, comme si ça s'était encore passé hier, avec une incapacité à s'entendre, c'est-à-dire que ceux qui disent la France a été la complice d'un génocide et ceux qui disent que jamais, au contraire, que la France a fait en sorte que les dégâts, entre guillemets, soient limités. Donc, on voit qu'on n'a pas encore vraiment avancé là-dessus, même s'il y a eu des rapports britanniques, américains, qu'il y a eu des rapports dans le monde entier sur la question du Rwanda. On voit bien que c'est plus de l'idéologie que des faits qui sont mis en avant.
L'Élysée, en tout cas, a promis que la commission d'historiens aurait accès à toutes les archives françaises. Donc, on en saura peut-être un peu plus.
Ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, c'est toujours, je trouve, pas inquiétant, mais enfin, en tout cas, on doute toujours un peu quand c'est un pouvoir qui met en place une commission de chercheurs, d'historiens indépendants.
Et il aurait peut-être fallu associer des historiens rwandais?
Aussi, bien sûr, mais je pense que ça n'empêche pas qu'il y ait des travaux rwandais, des historiens rwandais qui soient pris en compte dans ces travaux-là.
Jours en France.
Nous sommes toujours en compagnie d'Éric Fotorino qui vient de lancer une nouvelle revue trimestrielle, Zadig. On va commencer, si vous voulez bien, à revivre l'actualité en France avec d'abord ce mini remaniement curieusement annoncé dimanche soir. Emmanuel Macron a nommé trois trentenaires choisis parmi ses fidèles. Cédric O devient secrétaire d'État chargé du numérique. La députée La République En Marche, Amélie de Montchalin, hérite du ministère des Affaires européennes. Enfin, la conseillère en communication de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, est propulsée porte-parole du gouvernement. C'est l'ascension fulgurante de Sibeth Ndiaye, 39 ans, réputée pour son franc-parler qui a suscité le plus de commentaires. Lors de la passation de pouvoir avec Benjamin Griveaux, Sibeth Ndiaye s'est souvenue de ses origines sénégalaises. Anthony Latier.
Sibeth Ndiaye a parlé de son enfance en Seine-Saint-Denis, ce département de la région parisienne où, a-t-elle dit, rien n'est simple, mais où tout est possible. Elle admet avoir douté avant de passer de l'ombre à la lumière, mais elle s'est rappelé ce que lui disaient ses parents sénégalais.
C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche, en toute humilité. C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles, souvent prononcées par nos parents, pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre. Là où tu es, tu es à ta place.
Sa place, cela a longtemps été celle de conseillère presse d'Emmanuel Macron, un poste qu'elle occupe au ministère de l'économie déjà, puis pendant la campagne présidentielle et enfin à l'Élysée. Proche parmi les proches du président, elle connaît, si l'on peut dire, son Macron par cœur, avec son caractère bien trempé, avec son langage parfois cru. Elle a depuis 2 ans un rapport souvent conflictuel avec les journalistes. Il faut dire qu'elle a appliqué à la lettre le verrouillage de la communication présidentielle voulue par le président, assumant de mentir parfois pour défendre son mentor. Elle nous confiait il y a 1 an qu'elle ne ferait jamais de la politique en pleine lumière. Emmanuel Macron l'a visiblement convaincue du contraire.
Éric Fotorino, est-ce que ce mini remaniement illustre l'isolement d'Emmanuel Macron selon vous? Il n'ouvre pas le gouvernement mais préfère s'entourer de fidèles parmi les fidèles?
Oui, c'est vrai que je pense que c'est un des traits caractéristiques de ce pouvoir hein, en place maintenant depuis presque 2 ans, c'est que on est dans un entre-soi. Il y a peu d'ouverture. Alors on pourrait se réjouir de se dire ce sont des jeunes, qu'il y a des femmes, donc il y a bien sûr des points positifs, mais on peut dire aussi que on est dans une garde rapprochée et que le président a de plus en plus de mal manifestement à puiser dans une ressource humaine qui serait plus large, qui irait au-delà de son propre cercle rapproché. Et je crois que ça montre que on a un pouvoir assez technocratique en France aujourd'hui et qui ne sait pas faire de la politique, non pas au sens politicien du terme, mais qui ne sait pas faire justement ce qu'on doit faire quand on est à sa place, c'est-à-dire ouvrir le champ des compétences et ne pas être... On disait de lui, il est original parce qu'il n'a pas de parti et finalement, il s'en crée un qui est quasiment une sorte de base comme ça, un peu retranchée de tout le reste.
On parlait tout à l'heure des Gilets jaunes. Le premier film sur le mouvement, un documentaire, Je veux du soleil, est sorti mercredi sur les écrans français. Son auteur, François Ruffin, membre de la France Insoumise. Un film tourné en décembre dernier, Sophie Torlotin.
Les plaquettes de frein ont été refaites hier.
C'est un road movie sur les ronds-points de France, du nord au sud.
Normalement, on peut rouler.
Douce France.
Le documentariste Gilles Perret et le désormais député France Insoumise François Ruffin recueillent les récits de gilets jaunes uniquement présentés par leur prénom ou complètement anonymes. Des témoignages de fin de mois difficiles, de frigo vide, de honte, mais aussi des déclarations d'espoir, la joie d'une solidarité retrouvée. Nulle image de casseur ou de débordement raciste dans ce documentaire empathique, résolument engagé, d'autant que François Ruffin et Gilles Perret ont fait le choix d'un montage coup de poing, alternant les discours d'Emmanuel Macron ou les interventions d'éditorialistes sur les plateaux télévisés et les histoires déchirantes de vie précaire.
Si j'étais Monsieur Macron, qu'est-ce que vous me diriez ?
Tourné en quelques semaines en décembre dernier, Je veux du soleil répond à une urgence. François Ruffin affirme même remplir un vide.
Ce mouvement n'a pas été assez habité par les intellectuels, par les artistes, par les cinéastes aussi. Des poètes auraient été les bienvenus pour venir porter les mots autrement des Gilets jaunes.
Le politique François Ruffin prend donc les artistes de vitesse avec ce documentaire militant qui sort opportunément quelques semaines avant le scrutin européen.
Je vais l'ouvrir la porte.
Elle est jaune fluo la porte.
C'est du soleil que je vois derrière. C'est pas la tempête. Je vois le soleil derrière.
Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été assez habité par les intellectuels, c'est ce que disait à l'instant François Ruffin. Vous êtes d'accord, Éric Fotorino?
Ça dépend quels intellectuels, et je pense que, je ne sais pas si lui se place parmi eux, ou si avec son travail il veut montrer que un mouvement social comme ça doit être saisi par une forme d'art, pourquoi pas. Mais non, je pense qu'il y a eu beaucoup de prise de position et de regard et d'analyse dans la presse, dans les médias. Alors je parle pas des télés en continu ou du spectacle, dans le monde du spectacle, mais je crois qu'il y a eu quand même dans la presse de qualité beaucoup de prise de position.
Avec un temps de retard peut-être.
Y compris d'écrivains. Ben, vous savez, en retard par rapport à quoi? Est-ce qu'il faut tout de suite être dans la réaction immédiate face à ce qui se passe? Moi je pense qu'aujourd'hui l'instantanéité est une tyrannie, c'est-à-dire qu'on nous demande tout de suite, on demande tout de suite à tout le monde qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et on se donne plus jamais le temps d'observer, de décompter et de réfléchir. Donc non, moi je pense pas qu'il y a eu une absence. Moi quand et je veux pas parler spécialement du 1, mais tout de suite on a publié Gérard Mordilla, on a publié Éric Vuillard, on a publié encore cette semaine Stéphane Brisé. Bon, je pense qu'on a toujours été, on est allé chercher les poètes, nous, hein, parce que chaque semaine il y a de la poésie. Donc, si vous voulez, les leçons que donne François Ruffin, dont on ne sait pas s'il est tantôt député, tantôt journaliste, tantôt trublion, etc. Et moi, je suis gêné, en fait, par cette démarche que je trouve très démago chez quelqu'un qui, par ailleurs, a écrit un livre sur la Macronie, sur Macron, où il y a des descriptions physiques du président que je trouve quasiment proches de l'antisémitisme. Donc, si vous voulez, je suis très gêné d'un film que je n'ai pas vu, hein. Mais je ne sais pas si je le regarderai, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a plusieurs visages et je ne sais pas où est sa sincérité à cet homme-là.
Alors, initié par l'Élysée en réponse au mouvement des Gilets jaunes, le grand débat national s'est terminé jeudi en Corse par la dernière rencontre entre Emmanuel Macron et des maires. La rencontre avec 160 maires de Lille sur 360 invités a duré 5h30, mais elle a été boycottée par les chefs de l'exécutif corse, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Envoyé spécial de RFI à Cozzano, Valérie Gasse.
C'est un élu estampillé La République En Marche, Jean-Baptiste Luccioni, le maire de Pietrosella, qui s'est fait le porte-voix des Corses qui ont regretté les paroles d'Emmanuel Macron lors de l'hommage au préfet Erignac en 2018 à Ajaccio.
J'ai mal vécu votre première visite présidentielle parce qu'il y a eu des mots qui ont contribué à ne pas construire le chemin de la paix.
Mais pas question pour Emmanuel Macron de céder quoi que ce soit sur la condamnation de ce crime. Au contraire, le président estime que ceux qui défendent l'identité corse doivent faire un travail mémoriel.
Tant que cette part d'histoire, certains n'auront pas le courage de dire, c'est une plaie. Et la souffrance de la famille Erignac est aussi la nôtre. Ils feront bégayer l'histoire.
Une réponse à distance aux attaques des dirigeants nationalistes de Lille, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, absents du débat et auxquels il envoie un message.
Je ne veux pas tomber dans le piège de posture. Je pense que les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées. Les Corses, ils ont besoin de solutions concrètes pour que la vie s'améliore.
Emmanuel Macron a affirmé qu'il voulait avancer avec les Corses et a rappelé qu'il avait accepté l'inscription de la spécificité corse dans la Constitution.
La reconnaissance de cette spécificité, qui est un chemin vers la possibilité d'adapter des normes dans le cadre de ses compétences. Ça s'appelle l'autonomie dans la République. Mais j'ai jamais dit que j'étais pour l'autonomie sans la République.
Une nouvelle fois, Emmanuel Macron a affirmé le cadre dans lequel il était prêt à négocier.
Éric Fotorino, la politique de la chaise vide pratiquée par Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ouais, je vais vous dire pas grand-chose parce que j'ai l'impression que c'est un jeu de rôle qui dure depuis tellement d'années. Ils ont invité le président Macron à venir à l'Assemblée Corse, il est pas venu. Eux les avaient conviés à ce débat et ils ne sont pas venus. Qu'est-ce qu'ils veulent les nationalistes exactement ? Est-ce qu'ils veulent l'indépendance de la Corse ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent ? Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'on sorte aussi de l'hypocrisie sur ces questions-là. Il est évident qu'il y a pas je crois que le peuple corse n'est pas, si on peut parler d'un peuple corse, n'est pas pour s'affranchir de ce qu'est la République française. Donc à partir de là, si leurs propres dirigeants ne sont pas capables de sortir des postures et de voir exactement ce que veulent leurs concitoyens, ben on restera, les présidents changeront et on restera toujours sur ces mêmes chaises vides, comme vous dites.
Alors le grand débat national qui s'est terminé jeudi, on attend lundi et mardi la restitution devant les députés à l'Assemblée. Ensuite, Emmanuel Macron annoncera ce qu'il aura décidé d'en tirer. C'était une bonne idée selon vous ? Organiser ce grand débat national.
Ben je pense qu'à un moment donné, il fallait entendre, organiser. C'est une idée procédurale en fait, c'est-à-dire que c'était pour faire baisser un peu la tension, de se dire on va organiser comme ça ces débats. Mais vous savez, une idée peut être une bonne idée, mais après c'est sa réalisation qui fait qu'on la juge bonne ou mauvaise. Et là, ce que je vois quand même, c'est que si vous allez sur le site du grand débat, vous rendez compte que les questions c'est tellement corseté. Qu'on peut pas dire que vraiment il y a un grand débat libre et démocratique. C'est vraiment, il y a des voies de passage obligées qui sont très contraignantes. Donc tout ça, élu et calculé par des algorithmes, Je ne sais pas ce qu'il en sortira à l'arrivée, mais j'ai pas le sentiment qu'en France, il y a eu ce qu'on appelle un grand débat. Je trouve plutôt qu'il y a eu une sorte de captation de parole de la part de l'exécutif qui a été quand même très présent, à commencer par le président, et de voir ces gens qui s'ébobissaient en disant « Oh là là, il connaît très bien ses dossiers ». Mais a-t-il écouté ?
Alors dans Zadig, vous interviewez longuement l'historienne de la Révolution française, Mona Ozouf. Mona Ozouf qui se refuse à spéculer sur l'avenir du mouvement des Gilets jaunes, vous l'interrogez sur le sujet. Oui. Mais elle voit des similitudes entre leurs revendications très disparates et les fameux cahiers de doléances de 1789.
Oui, ça c'était intéressant évidemment d'avoir son regard d'historienne et en particulier des échos qu'il pouvait y avoir entre les sans-culottes et les Gilets jaunes. Et ce qu'elle explique très bien, c'est que les cahiers de doléances, il y en a 60 000 qui expliquent, qui racontent l'Ancien Régime, sont déjà des réécritures, c'est-à-dire que c'était ceux qui savaient écrire le français, et donc ils n'étaient pas si nombreux que ça, dans les villages, les sachants dans les territoires, qui sont après venus à Paris les exposer. Mais je crois que la leçon de Mona Ozouf, là, c'est quand elle dit que les Gilets jaunes, pour elle, c'est une révolte sans espérance. Et ça, de l'immédiateté, c'est-à-dire le 80 à l'heure, c'est Macron démission, c'est quelque chose donc qui n'a pas d'horizon profond, c'est de l'immédiat. Alors que les révolutionnaires avaient, au départ encore, parce qu'il y a eu plein de révolutions françaises, mais au départ avaient de vrais idéaux de reconstruction de la société.
Et Mona Ozouf rappelle également au passage que le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes, eh bien c'est Condorcet qui en avait eu l'idée.
C'est ça.
Mais ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché parce que quand il a voulu le présenter, il y a eu la guerre avec l'Autriche, et puis je pense que les révolutionnaires ont considérait que c'était une procédure beaucoup trop... Redonner le pouvoir au peuple, au vrai peuple, finalement, c'était pas simple.
Alors, le premier numéro de Zadig, Éric Fotorino, nous conduit du Havre au Guilvinec, de Goussainville à Vierzon, ou encore de Vesoul à Cannes-sur-Mer. Toutes les Frances qui racontent la France, et la France rurale notamment, elle souffre, les cœurs de petites villes se désertifient, les services publics ferment, les gens se sentent abandonnés. C'est le sujet de l'enquête que vous publiez et qui fait résonance, là encore, avec les revendications des Gilets jaunes.
Oui, bien sûr, nous avons voulu, à travers ces reportages, ces enquêtes, ausculter cette France-là, comme vous dites, de désertification, de services publics qui s'éloignent des lieux de vie. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que ces constats-là, on n'est pas les premiers à les faire, ils ont déjà été faits, on les a faits vraiment sur le terrain et au long. C'est ça qui peut-être se différencie de d'autres publications. En revanche...
Et puis il y a des témoignages très touchants aussi, comme charcutier de Vierzon.
Oui, le charcutier de Vierzon qui n'arrive pas à vendre sa charcuterie parce que les gens qui viennent trouvent que c'est pas assez cher et ils pensent qu'il y a un piège. Mais on suit aussi une infirmière rurale d'Audrecel dans les Hauts-de-France, dans sa tournée, et c'est vraiment très intéressant, cette patte humaine qui y a là. Mais je voulais aussi qu'il y ait des témoignages et des portraits de gens qui agissent, qui font des choses, qui retissent du lien social.
Comme à Créteil, ces
femmes
de Créteil.
Ces femmes de Créteil, effectivement, dans cet atelier où elles font notamment des perruques et aussi des tissus pour des femmes qui souffrent du cancer. Et je voulais aussi qu'on ne soit pas 200 pages où on va se lamenter qu'on ne peut plus rien faire, fataliste. Non, c'est pas du tout ça.
Alors, il y a des pages où on ne se lamente pas du tout. Pour preuve, le témoignage de William Boyd sur la France, qui est assez savoureux. Rien que le titre déjà, un parfait antidote, La vie en Dordogne, antidote à la vie londonienne de l'écrivain.
C'est ça.
William Boyd qui écrit « L'une de ces différences en particulier me frappe lorsque je quitte notre royaume encore structuré par un strict système de classe. J'aime vivre en république. » Plusieurs fois par an.
Oui, ça fait 40 ans que ça dure chez William Boyd. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il trouve qu'on est capable de passer beaucoup d'heures sur des sujets tout à fait triviaux et que, bien sûr, la nourriture, l'art de la conversation sont des choses que lui ne trouve pas, évidemment, dans son Royaume-Uni natal.
Et les étrangers s'en souviennent peut-être mieux que nous. Il fait bon vivre en France.
Oui, sûrement. Et d'ailleurs, ce sera dans Zadig, chaque trimestre, on invite un auteur étranger pour nous raconter pourquoi il a choisi de vivre une partie de sa vie en France.
Une semaine d'actualité.
C'est une question ultra sensible. Les enfants de djihadistes doivent-ils rentrer en France ? La justice a examiné mardi les recours en urgence déposés par deux Françaises retenues avec leurs enfants dans un camp du Kurdistan syrien. Deux Françaises qui veulent contraindre l'État français à les rapatrier. Les avocats qui assurent leur défense ont déposé deux référés liberté pour que la justice administrative oblige le Quai d'Orsay à procéder au rapatriement des enfants. Franck Alexandre a suivi l'audience pour RFI.
Soyez un rempart, un bouclier des libertés fondamentales, demande sans détour au juge administratif William Bourdon. Et la première des libertés fondamentales défendues par l'avocat, c'est le droit à la vie garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. La situation en Syrie est telle que c'est une chronique de la mort annoncée d'enfants français, martèle-t-il. Le ministère des Affaires étrangères, lui, défend une toute autre lecture de la situation. Ces rapatriements relèvent d'une décision de gouvernement qui échappe au juge administratif, dit ses représentants, insistant sur le fait qu'ils ne peuvent s'immiscer dans les décisions des Kurdes. 5 orphelins ont pourtant été rapatriés il y a moins d'un mois, rappelle William Bourdon, appelant à faire preuve d'humanité, une compassion qui, à ses yeux, relève des droits de l'enfant.
Il est temps que le droit retrouve ses couleurs sur ce que nous avons qualifié d'un véritable cynisme d'État, c'est-à-dire de prendre le risque de laisser crever des enfants français en bas âge. Dans leur sang ne coule pas un sang qui les infecterait tel que leur qualité d'enfant disparaîtrait devant le fait que ce sont des enfants de djihadistes.
La justice administrative rendra sa décision dans les 48 heures, à moins qu'elle ne décide de saisir une formation collégiale pour trancher cette situation ô combien délicate.
Éric Fotorino, la doctrine du gouvernement français pour le retour en France des enfants de djihadistes partis au Proche-Orient, c'est le cas par cas. Est-ce que c'est acceptable selon vous ?
Je pense que le cas par cas veut dire qu'on n'a pas de principe. C'est-à-dire que s'il y a un principe enfant de djihadiste, est-ce que c'est d'abord le mot djihadiste qui compte ou est-ce que c'est d'abord le mot enfant ? Je crois que c'est ça l'interrogation. Si c'est d'abord le mot enfant, alors il faut les faire rentrer tous, il n'y a aucune raison de distinguer. Si c'est le mot djihadiste, alors on considère qu'il y a une dangerosité liée à leurs parents morts. Mais plutôt vivants, s'ils sont morts, ils sont morts. Et dans ce cas-là, c'est plus, on refait de la politique et ça veut dire qu'il doit y avoir un donnant-donnant. C'est-à-dire que s'ils reviennent, qu'est-ce que ça suppose pour le sort réservé aux parents qui sont encore vivants, en particulier les mères? Voilà. Donc moi, je pense que si on applique un principe pour des enfants, évidemment, je trouve qu'il va de soi qu'il faut les faire revenir.
Alors, Libération a révélé hier matin qu'une opération de rapatriement d'environ 250 Français, hommes, femmes, enfants, retenus au Kurdistan irakien, a été gelée par l'Élysée face à l'hostilité de l'opinion publique. Est-ce qu'il faudrait, comme le demandent les Kurdes, créer un tribunal international pour l'État islamique ?
Ça, moi, je trouve que je vois pas pourquoi la justice internationale ne passerait pas sur ces exactions, ces crimes terribles qui ont été accomplis dans ces années par les représentants de l'État islamique, leurs soldats, ceux qui avaient été complètement embrigadés. Et justement, si on veut précisément qu'une pacification des esprits se fasse, il faut que la justice passe là où elle ne s'est pas appliquée.
Jours dans le monde.
Dimanche dernier, les Brésiliens sont descendus dans la rue pour rappeler les atrocités de la dictature brésilienne. Une manifestation pour condamner la décision de leur président de célébrer le coup d'état militaire de 1964 qui avait plongé le pays dans plus de 20 ans de dictature. Jair Bolsonaro, lui, récuse le terme coup d'état. Il préfère parler de révolution démocratique qui, selon lui, a sauvé le Brésil d'une dictature communiste. Un dérapage de plus qui ne passe pas auprès de la population. Le reportage à Rio de Sara Cozzolino.
La dictature, plus jamais, crient les manifestants dans le centre de Rio. Habillés en noir, ils énumèrent les noms des personnes assassinées, torturées et disparues pendant ces 21 ans de dictature. Aline Porto tient la photo d'un étudiant, Stuart Angel, torturé et tué en 1971.
Nous craignons qu'avec ce gouvernement de Jair Bolsonaro qui fricote avec le fascisme, qui est favorable à la dictature et à la torture, eh bien les personnes oublient tout ce qui s'est passé. Donc on est ici pour rappeler tout ça.
Ouvertement nostalgique de la dictature, Jair Bolsonaro a déjà déclaré qu'à cette époque, l'erreur avait été de torturer et de ne pas tuer. Pour Renato Costa, vouloir célébrer le jour du coup d'état militaire, c'est une preuve de plus de son discours de haine permanent.
On n'est plus surpris avec ce nouveau gouvernement.
Avec lui, chaque jour sort une nouvelle atrocité. Par contre, on a peur. Moi, j'ai vraiment peur. Jusqu'où tout cela va nous amener? Est-ce qu'il y aura vraiment une prochaine élection? Et quand? On n'est plus sûr de rien.
Depuis sa prise de fonction, les manifestations se succèdent contre Jair Bolsonaro et sa politique. Il est désormais le président en début de mandat le plus impopulaire depuis 1994.
Une claque pour Recep Tayyip Erdogan et son parti aux élections municipales dimanche en Turquie. L'AKP a perdu la capitale Ankara, mais aussi la ville d'Istanbul. Mais le parti du président Erdogan a décidé mardi de faire appel de ses résultats à Istanbul, mais pas seulement. Correspondance d'Alexandre Billette.
Le parti de Recep Tayyip Erdogan ne conteste pas seulement les résultats dans certains bureaux de vote, mais dépose un recours dans chacun des 39 arrondissements d'Istanbul. En évoquant des irrégularités et des écarts importants entre le nombre de votes réels et les résultats qui ont été transmis au conseil électoral. Résultats, ce sont ces conseils électoraux locaux qui devront maintenant accepter ou pas ces demandes. Mais l'AKP pourrait ensuite faire appel aux instances supérieures. Bref, le processus pourrait bien être prolongé jusqu'au 13 avril si le parti décidait de pousser la bataille juridique jusqu'au bout. En fait, les recours ne concernent pas seulement Istanbul, mais aussi le scrutin à Ankara, qui a été remporté par l'opposition, de même que certaines villes de province, comme Yalova ou Edirne. Et comme pour bien rappeler que le parti ne se considérait pas encore vaincu, des affiches ont été posées un peu partout dans Istanbul. Des affiches avec le portrait de Recep Tayyip Erdogan, qui remercie les électeurs, comme lors de ses victoires précédentes.
Est-ce que cette défaite, même si elle reste à confirmer, de l'AKP, montre que le nationalisme à outrance a des limites aujourd'hui en Turquie?
Oui, je pense. Voilà, ce sont des élections municipales, hein. C'est pas oui, des... oui. Donc il faut ramener à juste proportion ces résultats.
Mais quand même des villes symboles, Ankara,
bien sûr,
Istanbul.
Ankara, Istanbul, c'est quand même pas rien. C'est pas des petites bourgades. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que chez ce président qui s'est fait quasiment désigner à vie, qui a tous les pouvoirs, qui a l'appareil d'État, l'appareil policier, il a tout. Finalement, que des voix s'élèvent démocratiquement pour ne pas voter pour son parti, je trouve que c'est quand même je sais pas, c'est réconfortant, mais enfin, en tout cas, ça veut dire qu'il peut toujours s'introduire un grain de sable quelque part, et que ce grain de sable, il peut grossir.
Alors, on va parler d'une autre élection assez étonnante. Une femme noire et homosexuelle assumée, élue à la mairie de Chicago. C'est une première. Lori Lightfoot l'a emportée mardi soir face à une autre afro-américaine. RFI Washington, Anne Corpet.
Femme noire, ouvertement homosexuelle et maire de Chicago, Lori Lightfoot fait l'histoire.
Thank you, Chicago.
Et ses premiers mots sont pour son adversaire, Ronnie Prankwinkle, également afro-américaine.
In this election, Tony and I,
Ronnie et moi étions concurrentes, mais nos différences ne sont rien, lance-t-elle à la foule. Maintenant que la course est finie, je sais que nous allons travailler ensemble pour la ville que nous aimons. Aujourd'hui, reprend l'élu, vous avez fait mieux qu'écrire l'histoire, vous créez un mouvement pour le changement. Lori Lightfoot n'a jamais été élue, c'est son premier mandat. La nouvelle maire de la ville entend lutter pour plus de justice sociale, déclare vouloir mettre fin à la corruption, réconcilier la police avec la jeunesse des quartiers noirs et résoudre les problèmes de sécurité. Elle annonce qu'elle fera de Chicago une ville accueillante pour les migrants et elle conclut « Nous allons faire de Chicago une ville où la couleur de peau importe peu, où l'on peut aimer n'importe qui du moment que c'est du fond du cœur, avant de prendre sa fille dans ses bras et d'échanger un rapide baiser avec son épouse. »
Éric Fotorino, une femme noire et homosexuelle qui devient maire de Chicago, est-ce que ce sont les paradoxes réconfortants de l'Amérique de Trump?
Oui, pareil, j'aime bien, il y a le mot light dans son nom, c'est
voilà.
La lumière. Mais alors c'est vrai qu'Obama aussi était issu de Chicago et donc il y a toujours eu quand même, enfin toujours, ces dernières années, le rôle des noirs et la reconnaissance a pu être très importante. Mais oui, je pense que pareil, les États-Unis, le président des États-Unis c'est une chose, mais il y a les grandes villes américaines et on voit bien que sur beaucoup de dossiers, elles sont en complet désaccord et dans leur pratique, sur notamment le climat, sur l'accueil des migrants, etc. Et donc, oui, c'est ça les paradoxes de l'Amérique. Vous avez à la Maison-Blanche un homme qui doit détester ce résultat de Chicago.
Éric Fotorino, on dit que la presse va mal, et notamment la presse écrite, qu'à l'heure du zapping, les gens lisent de moins en moins. Vous avez lancé en 2014 avec Laurent Grelzhammer le 1, cet hebdo qui prend beaucoup de place quand on le déplie, et ça marche. 33 000 exemplaires vendus en moyenne chaque semaine. Qui sont les lecteurs du 1 et est-ce que vous visez le même lectorat pour Zadig?
Alors oui, le 1 va fêter ses 5 ans. Là, on va publier bientôt le numéro 250 dans lequel on republiera le 1 du 1. Écoutez, ce qu'on a découvert, c'est que nos lecteurs étaient le plus jeune abonné à 13 ans, le plus âgé à 86 ans. C'est déjà une indication, c'est-à-dire qu'il y a un chaînage d'âge avec beaucoup de jeunes lycéens, étudiants, enseignants qui s'appuient sur le 1 souvent donc comme un outil pédagogique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ.
Un sujet, un numéro, oui. Un seul sujet.
Voilà, exactement, et plusieurs regards, à la fois justement d'écrivains, de chercheurs, de dessinateurs, etc. On traite aussi bien de l'Algérie que du Brexit, que des impôts, des privatisations, etc. C'est un sujet, comme vous le dites. Donc, je pense, si vous voulez, que le lectorat de Zadig, par rapport à celui du 1, lui est plus centré sur la France, bien sûr, mais je crois que c'est à peu près le même lectorat, c'est-à-dire des gens qui sont curieux d'avoir, non pas un journal d'information, parce que l'information, elle est quand même présente dans beaucoup d'endroits, mais plutôt un journal d'inspiration, quelque chose qui les inspire et qui leur permet à eux de se forger non seulement une opinion, mais aussi d'avoir une vision plus juste, plus concrète des sujets qu'on leur propose.
Et puis c'est un bel objet littéraire.
Oui, ça c'est important pour nous, c'est un objet.
Vous
déjà.
Avez soigné l'iconographie.
Oui, c'est vrai, on travaille avec des photograveurs, on travaille avec des dessinateurs, des photographes, on fait attention à la typo, le diable est dans les détails, donc il faut regarder chaque détail, mais là c'est 200 pages de lecture. C'est évidemment, c'est un dos carré, comme on dit, c'est-à-dire c'est comme un livre un peu. Et d'une certaine manière, le fait d'avoir un bel objet, je crois que c'est gratifiant aussi pour le lecteur, dans la mesure où il peut s'installer de façon assez confortable dans une lecture, et que c'est, il y ait une dimension agréable. La lecture, ça doit être un plaisir aussi.
Vous avez dit, que vous croyez à l'écrit profond. Est-ce que vous pouvez expliciter?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est que dans la lecture de surface avec nos petites machines qui sont bourrées d'algorithmes mais d'intelligence artificielle, donc on zappe beaucoup, on est toujours dans un mode requête, c'est-à-dire au bout de quelques secondes, on a envie de voir autre chose, ou si on veut pas, il y a quelque chose qui surgit, et donc notre attention est sans cesse détournée. Et alors que ce que j'appelle la lecture profonde, c'est que lorsque vous êtes en train de lire le 1 ou Zadig, ou d'autres journaux en papier évidemment, si c'est intéressant, si c'est de qualité, ça dépend de nous, votre attention va être profonde, et c'est là que vous allez justement gagner du temps, parce que vous allez passer du temps à vous immerger d'un dossier, d'un sujet, d'un portrait, d'un entretien.
Donc vous êtes optimiste pour la presse écrite qui privilégie le temps long.
Oui, c'est ça. Moi, je pense que la presse écrite a beaucoup de mal à lutter dans le temps réel, puisque le temps réel, effectivement, il est quand même complètement atomisé par les smartphones, par les écrans, etc. Qu'en revanche, l'enjeu du temps long, il appartient complètement, je crois, à ce type de journalisme qui propose des longs formats et qui propose une écriture soignée. Écriture soignée, ça ne veut pas dire compliquée ou intello, ça veut dire du récit.
Alors, vous avez eu recours au financement participatif pour créer Zadig. Vous avez tiré le premier numéro à 70 000 exemplaires. Vous en avez retiré 20 000 de plus. Oui. Est-ce que c'est un effet de curiosité ou est-ce que vous pensez que ce sera le tirage moyen ensuite
Ça, c'est difficile de dire que le numéro 2 puisse faire autant. Mais en revanche, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a la curiosité, bien sûr, la nouveauté. Elle avait été annoncée avec, en effet, cette campagne participative. Mais je crois que les lecteurs qui ont commencé à l'avoir entre les mains, ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de choses à lire, que ce soit peut-être cet objet, comme vous dites. Et puis, je pense que ça correspond à un moment de la France. Vous voyez, on a appelé ça Réparer la France pour le premier numéro. Cette idée de réparation, je pense qu'elle fait adhérer beaucoup de lecteurs qui, je pense, nous suivront pour la plupart d'entre eux.
Donc, vous espérez en vendre en moyenne combien?
Écoutez, on s'était fixé un objectif autour de 25 000. On va plus que le doubler pour le premier numéro, et je pense qu'on pourrait avoir la même diffusion qu'América, ce qui serait déjà formidable, qui est de 40 000 exemplaires par trimestre.
Merci beaucoup Eric Futorino d'avoir été notre invité. Bonne chance à Zadig.
Merci infiniment.
Votre revue trimestrielle qui est en vente en kiosque et en librairie. Merci à Vanessa Robensky qui a réalisé cette émission. Bonne semaine.